7h42 en temps universel. RFI Matin, suite et fin, tout à l'heure, appel sur l'actualité et dans 18 minutes, un nouveau journal, les États-Unis et Los Angeles ravagés par les flammes, à nouveau à la une, reportage avec les habitants d'un quartier populaire qui retrouve leur maison en ruine. L'info à 8h, temps universel, c'est aussi l'attente à Gaza du cessez-le-feu et les appels des organisations humanitaires à laisser passer sans entrave l'aide qui s'amasse à la frontière. On fera le point sur les urgences avec la coordinatrice médicale de Médecins Sans Frontières. À suivre d'ici là, notamment les conséquences encore mesurées sur l'économie de la brouille diplomatique entre la France et l'Algérie. Et puis notre choix musical avec José Marinho en direct du festival Eurosonic aux Pays-Bas. Mais tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier, un journal des sports qui débute en Côte d'Ivoire un an après la CAN. Le pays se dote de nouvelles infrastructures sportives.
Avec la pose jeudi de la première pierre du Centre Technique National de Football à Bingerville, à l'est d'Abidjan. Un rendez-vous que de nombreux politiques ivoiriens et des acteurs du foot africain ne voulaient pas manquer pour saluer le début des travaux de ce centre dont le but est de renforcer le développement du foot ivoirien. Youen Gourlet.
Le projet du CTNF est de moderniser ce centre laissé à l'abandon afin d'offrir des conditions optimales à la détection, la formation des jeunes et la performance des équipes nationales. À l'image de Clairefontaine, le Centre National du Football Français, Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération Ivoirienne de Football.
À la création de ce centre, le rêve était de réaliser à terme un Clairefontaine ivoirien. Mais notre objectif premier demeure la promotion et le renforcement des capacités du football des jeunes filles et garçons.
En plus de la réhabilitation des espaces existants, le chantier sera de construire 6 bâtiments, dont ceux destinés à l'hébergement, l'entraînement et la récupération. Un centre entièrement financé par la FIFA grâce au fonds Forward, à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, absent hier, s'est exprimé sur grand écran depuis New York.
Ce centre ne sera pas simplement un centre technique de football. Il deviendra un véritable symbole d'espoir et d'opportunité. Un tremplin pour les jeunes joueurs, entraîneurs et passionnés.
Avec ce projet, les autorités ivoiriennes espèrent surfer sur le succès des éléphants lors de la CAN à domicile il y a près d'un an. Pour, disent-elles, faire de la Côte d'Ivoire une des grandes nations du football mondial. L'inauguration du centre doit avoir lieu en mars 2026, quelques mois donc avant la Coupe du Monde de football, à laquelle la Côte d'Ivoire espère participer. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Et la Côte d'Ivoire qui a vibré hier en suivant les exploits d'Amad Diallo.
L'ailier de Manchester United a sorti le grand jeu en 12 minutes, de la 82e à la 94e. Il s'est offert un triplé permettant à Manchester United d'enregistrer face à Southampton une première victoire en 5 matchs de Première Ligue. Après 21 journées, United est 12e du classement grâce à Diallo et aussi un peu à André Onana dont les parades face aux Saints ont maintenu les Red Devils hors de l'eau.
On termine avec du handball et deux nations africaines en lice au mondial masculin. 3 défaites pour les nations africaines en lice au mondial.
Aujourd'hui, l'Égypte affronte Bahreïn à 17h temps universel et la Guinée se mesure à la Hongrie à 19h30 TU. Hier, 3 nations africaines, vous le disiez, 3 défaites. Dans le groupe B, l'Algérie s'incline face à l'Italie 32-23, la Tunisie plie face au Danemark 32-21 et enfin dans le groupe G, le Cap-Vert rate son entrée en lice dominé par l'Islande 34-21. Paolo Moreno, le pivot capverdien.
Il va falloir se pencher sur notre début de match. Je pense que nous avons trop souvent péché au début des rencontres, que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde. Nous sommes une équipe composée d'excellents joueurs avec beaucoup de qualités, nous l'avons déjà prouvé. Mais l'image que nous avons donnée face à l'Islande n'est pas celle du Cap-Vert. La première mi-temps a été très mauvaise avec beaucoup de fautes techniques qui ont donné des buts faciles à l'Islande. Ensuite, on s'est remis à l'endroit et la deuxième mi-temps a été meilleure, mais elle était encore loin de ce qu'on est capable de faire. Nous sommes une équipe vaillante, combative, résiliente, avec beaucoup de détermination et nous ne l'avons pas montré. Et c'est ce qui me rend triste. Nous devons changer cela.
Paolo Moreno avec Marco Martins. Prochain match des Cap-Verdiens, ça sera samedi contre la Slovénie.
Merci Antoine Grenier.
RFI Matin.
Quel impact sur l'économie de la brouille diplomatique entre Alger et Paris? Le regain de tension depuis le mois d'octobre et l'acceptation par le président Macron d'une solution marocaine pour le Sahara occidental. Après quelques signaux récents de tension dans le commerce du blé français ou des retards dans le redémarrage de Renault en Algérie, les opérateurs économiques sont inquiets et dans l'attente d'un apaisement. Mais les chiffres des douanes entre les deux pays ne révèlent aucune perturbation majeure en 2024. C'est l'Afrique économie du jour, signé Claire Fage.
Les signaux de tension existent sur le terrain économique entre l'Algérie et la France. Le français Renault n'a toujours pas obtenu l'autorisation de relancer sa production, reconnaît Michel Bizac, le président de la Chambre de commerce algéro-française, alors que le constructeur français s'était adapté aux nouvelles réglementations algériennes.
Renault a fait de gros efforts d'investissement pour demander à ses sous-traitants de fabriquer en Algérie. Et donc, normalement, Renault devrait obtenir ces autorisations. Mais le contexte politique n'est pas du tout favorable.
Le blé français est également boudé par l'Algérie depuis octobre, mais pour des raisons qui sont loin d'être uniquement politiques, souligne le courtier en céréales Damien Vercambre.
La qualité était vraiment mauvaise en début de campagne. Les silos portuaires ont commencé à la travailler. Mais il aurait fallu avoir une collaboration, en fait, entre la France et l'Algérie. Mais la porte s'est refermée, quoi. Je pense que l'Algérie a trouvé d'autres fournisseurs et essentiellement mer Noire.
Pour l'heure, estime l'homme d'affaires algérien Slim Otmani, la brouille diplomatique entre Paris et Alger n'a pas d'impact autre que psychologique sur les opérateurs.
Nous ne voyons pas du tout l'impact aujourd'hui. En revanche, évidemment, les entreprises françaises s'interrogent sur les conséquences que ça pourrait avoir sur leurs activités en Algérie.
L'inquiétude des entreprises algériennes et françaises n'est pas toujours fondée, observe Michel Bizac auprès de ses adhérents.
Il faut aussi faire bien attention à ce qui relève un petit peu du fantasme et de la réalité. Beaucoup d'entreprises mettent sur le dos de la situation actuelle certains blocages, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a des excès de zèle de l'administration algérienne.
Concrètement, il n'y a pas de perturbation majeure du commerce bilatéral en 2024. Selon les derniers chiffres des douanes, les exportations de l'Algérie vers la France ont diminué de 12%, mais les achats français de gaz naturel liquéfié algérien ont augmenté. Dans le même temps, les exportations de la France vers l'Algérie ont grimpé de 8%, des fluctuations classiques, souligne Dafer Saïdan, professeur à Skema Business School.
Il faut être mesuré. Les exports comme les imports de la France sont erratiques. Il y a des années où le taux de croissance des exports et des imports est positif, il y a des années c'est négatif. En l'état actuel des choses, on ne peut pas faire de conclusions structurelles. Pour moi, il n'y a pas de rupture commerciale.
Il est trop tôt, estime l'économiste, pour mesurer les conséquences éventuelles du différend politique franco-algérien.
Claire Fage pour Afrique Économie. 8h49 à Yaoundé et dans notre reportage Afrique ce matin, rencontre avec un homme présenté par ses pairs comme l'un des meilleurs danseurs camerounais. Depuis bientôt 10 ans, Arsène Etaba écume les rues et les salles de danse du Cameroun, d'Afrique et du monde. Le directeur artistique de la compagnie de Performers et Arsène Etaba présente ce week-end au laboratoire Otsni de Yaoundé son premier solo intitulé « Les dieux dansent mal », une performance dans laquelle il interroge la gouvernance des dirigeants. Richard Onaneda.
Le corps d'Arsène Etaba transpire la danse. Son sens inaigurine, la grâce de ses mouvements et son énergie explosive font trembler le plancher du laboratoire Otsni où il se prépare devant quelques admirateurs.
Je pense que c'est la danse qui m'a choisi. En la danse, j'ai trouvé beaucoup d'autres facilitations. J'ai trouvé beaucoup d'autres ouvertures. J'ai été lauréat de découverte en 2022, mais avant ça, j'avais déjà eu la grâce de rencontrer Zora Sneck, chorégraphe performeur, une légende de la danse également au Cameroun, qui m'a fait connaître l'Europe pour la première fois avec sa pièce Shadow Survivors. Et c'est de là qu'en fait qu'un autre chorégraphe, Serge Aimé Koulibaly, de façon danse théâtre, m'a récupéré.
La danse, sa passion, l'a accompagné jusque dans son parcours universitaire. L'année dernière, à l'université de Douala, il en a fait le sujet de sa thèse en pharmacie, la danse comme thérapie. Et quand Arsène Etaba danse, c'est surtout pour lui l'occasion de faire passer un message. Pour cela, il a créé un style hybride, la djem.
La djem est une danse afro-urbaine qui est née à la suite d'événements fâcheux, je dirais, parce que il nous était interdit à une certaine période de danser dans nos propres rues. Alors moi, en tant que citoyen camerounais, jeune camerounais, entrepreneur, passionné d'art et de culture, je ne parvenais pas à comprendre comment est-ce qu'ils m'ont interdit, moi, de danser chez moi, surtout que mes semblables, mes proches aimaient bien ce que je faisais. Donc c'est parti d'une frustration.
8 ans après ses débuts dans le ballet universitaire et sa participation à plusieurs festivals en Afrique et dans le monde, avec les compagnies moniales du Cameroun et surtout face aux danses du Burkina Faso, Arsène est devenu une source d'inspiration pour d'autres jeunes. Rose Ngewa, récente lauréate du prix Goethe Découverte en performance scénique, le suit à la trace.
Pour moi, c'est la référence comme danseur, avec les compétitions, la danse des créations. Je fais tout ce qu'il fait, donc j'espère pouvoir être comme lui plus tard.
Arsène est à bas et sur scène avec son premier spectacle solo, Les Dieux dansent mal, qu'il joue ce week-end à Yaoundé. Ensuite, direction l'Autriche, première étape d'une nouvelle tournée mondiale. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Notre reportage Afrique au Cameroun que vous retrouvez sur RFI.fr. Bientôt 8h en temps universel, RFI matin se termine avec notre choix musical. Ce matin sur Groningen aux Pays-Bas pour le festival Eurosonic où on vous retrouve, José Marinho, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Avec plus de 300 groupes venus de toute l'Europe, Eurosonic c'est tout simplement l'un des plus grands festivals de découverte au monde et parmi les artistes au programme cette année, un prodige islandais, il s'appelle Cactus, je ne sais pas, Einarsson et c'est son deuxième album intitulé Lobster Coda que vous nous faites découvrir, José.
Cactus Einarsson est un chanteur et compositeur de 36 ans. Son nouvel album, dansant et hypnotique, autant qu'électronique, audacieux dans ses fusions entre pop et musique classique, a été acclamé par la critique. Enfant précoce, il baigne dans la musique dès son jeune âge. En 1999, il n'a que 10 ans et intègre le groupe de rock expérimental de son père, qui n'était autre que le cofondateur en 1986 des Sugar Cubes, le premier projet au succès mondial de la chanteuse Björk.
Rien que ça, lui est très vite devenu l'un des fers de lance du pop-rock européen. D'abord avec son groupe de darkwave Fufanu et maintenant en solo, José.
Parce que sa musique est ouverte à tous les genres et aux artistes de toutes les générations, puis il fait partie des chanceux qui trouvent immédiatement le son, l'approche qu'ils cherchent et surtout des collaborateurs qui lui font confiance et le soutiennent de manière indéfectible, en l'occurrence ici la superstar britannique Damon Albarn.
Sur leur duo, le titre Gembry. José, l'album s'appelle donc Lobster Coda et c'est une illustration de la philosophie de Cactus Einarsson.
Grandi dans la capitale Reykjavik, au milieu de grands espaces volcaniques, ses chansons contemplatives et introspectives parlent d'émotions sans filtre, ses propres épurées. À la tête de projets innovants, Cactus Einarsson est sans doute actuellement l'artiste le plus créatif d'Islande.
Je pourrais survivre sur mon île islandaise sans instrument, juste à écouter la musique du vent et de l'océan pour me connecter à la nature. Mais je continue à composer pour créer de nouveaux espoirs. J'ai la chance d'avoir deux enfants de 3 et 4 ans qui valident ou pas de la tête ma musique. Partager, c'est tout ce qui compte pour moi. J'ai fait les premières parties de Radiohead, des Red Hot Chili Peppers et de Blur. Mais au-delà du prestige, c'est le dialogue avec les artistes et surtout le public qui m'intéresse ici à Eurosonic.
My goal, why I'm here.
José, sur ce morceau, Be This Way, on l'entend en duo avec la chanteuse islandaise Nana.
Chant intime et troublant, sans jamais en rajouter dans les effets, Julien, tout le disque s'écoute comme un conte merveilleux au pays des aurores boréales.
Lobster Coda, deuxième album de Cactus et Narson, qui après le festival Eurosonic aux Pays-Bas, va enchaîner les concerts et notamment à Paris le 15 février. On se quitte avec un dernier extrait, celui du titre Whiteburn. Burn et l'Islandais Cactus Einarsson dans notre choix musical. Merci José Marinho.
Merci Julien, on attend que vous ici. Hein.
Ah ben, écoutez, si je pouvais, bonne journée en tout cas au Festival Eurosonic aux Pays-Bas que vous continuez de nous raconter, de nous faire vivre sur RFI. RFI Matin se termine. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures d'information. Et ne bougez pas, tout de suite vous avez rendez-vous avec Juan Gomez. Bonjour Juan.
Bonjour Julien Coquelroem, bonjour à toutes et à tous.
Au programme d'appel sur l'actualité aujourd'hui.
Dans 10 minutes, nous commencerons évidemment avec les questions sur l'actualité. Les réponses de la rédaction ce matin nous interpellent sur l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Des questions également sur le report à 2 semaines du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations. Question également sur la construction d'un barrage qui empoisonne les relations entre l'Iran et l'Afghanistan. Voilà donc un aperçu des 30 prochaines minutes, Julien. À demain dans la matinale de RFI.
À demain.
Reste avec nous dans 30 secondes, le journal.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Nous vous proposons de réentendre l'émission Questions de femmes que nous avions consacrée à la fatigue, un symptôme à ne pas négliger, un spécialiste avec vous.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.